Europe 1. Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Nellie Bly s'est imposée au 19e siècle aux États-Unis comme la mère du journalisme d'immersion, c'est-à-dire qu'elle infiltrait le milieu dans lequel elle enquêtait sous couverture, à une époque où les femmes journalistes étaient encore cantonnées aux rubriques mode et jardin. Internée dans un asile d'aliénés, ouvrière sous couverture ou tour du monde en moins de 80 jours, elle a démontré qu'une femme pouvait agir avec autant de panache et d'indépendance qu'un homme. C'est son histoire passionnante et pleine de rebondissements que je vais vous faire découvrir aujourd'hui dans un récit en deux parties. Nellie Bly, la mère du journalisme d'immersion, épisode 1, Audace et camisole. Nous sommes à New York le 22 septembre 1887. Nellie Bly, jeune journaliste de 23 ans, se tient devant le mania de la presse américaine, Joseph Pulitzer. Elle attend ce moment depuis des jours. Il faut dire qu'elle a lourdement insisté pour être reçue par le propriétaire du célèbre New York World, le plus prestigieux journal du pays. C'est ici qu'elle veut travailler, et pas ailleurs. Le mince rédacteur en chef à la barbe noire fournie la dévisage derrière ses lorgnons. Ça fait un moment qu'il veut faire un long papier sur les secrets de l'asile pour femmes de Blackwell's Island, situé dans l'East River. Il lui propose de l'embaucher si elle parvient à se faire interner. Nellie est un peu décontenancée, mais pas question de le montrer. Elle demande seulement comment Pulitzer la fera sortir une fois qu'elle sera internée. Il lui répond qu'il ne sait pas. Elizabeth Jane Cochrane, la future Nellie Bly, est née en Pennsylvanie, dans la grande banlieue de Pittsburgh, en 1864. Elle est la 13e fille de son père, qui a eu 10 enfants de sa première femme et 5 de la seconde. La petite fille n'aime pas qu'on l'appelle Lizzie. Ses frères et sœurs la surnomment Pink parce qu'elle porte souvent des robes roses. Cette grande famille vit dans une ferme prospère. Pink n'a que 6 ans lorsque son père meurt. Très vite, elle développe un caractère rebelle. Elle arrête de s'habiller en rose et refuse désormais qu'on l'appelle par son ancien surnom. Elle voit ses frères quitter la ferme et entreprendre des études pour gagner leur vie. Elle aussi, elle devra avoir un travail, car les Cochrane ne sont pas assez riches pour qu'elle puisse vivre en bourgeoise oisive. Mais en tant que fille, elle n'a pas vraiment le choix en termes de métier et de formation. Elle envisage donc une carrière de gouvernante ou d'institutrice à laquelle elle se prépare à l'Indiana Normal School. Mais aux États-Unis, les études coûtent cher. Elizabeth n'a pas les moyens de payer l'intégralité de son cursus. De toute façon, elle préfère écrire. Elle veut gagner sa vie avec ses mots. Alors que sa mère s'installe en ville, Elizabeth se met à lire le journal local, le Pittsburgh Dispatch. À 16 ans, elle tombe sur une tribune intitulée « What girls are good for ?» Ce pourquoi sont faites les filles. Il s'agit d'un brûlot antiféministe qui rappelle que la place des femmes est à la maison pour élever les enfants. Révulsée par ce condensé de pensées sexistes, Elizabeth attrape une plume, du papier et rédige une sorte de contre-article où elle glorifie les femmes tout en dénonçant la société qui les cantonne au rôle de mère au foyer. Pour parfaire son œuvre, elle signe « L'orpheline solitaire ». Et puis elle envoie son papier à George Madden, le rédacteur en chef du Pittsburgh Dispatch. Le journaliste est très surpris par la qualité de cette tribune. Il convoque donc l'auteur qui a évidemment laissé des coordonnées où la joindre et tombe des nues en voyant débarquer dans son bureau une toute jeune fille de 16 ans avec un visage ovale mangé par une frange, un nez un peu fort et un regard noisette perçant brillant d'intelligence. Comme Elizabeth lui explique qu'elle veut devenir journaliste, Madeleine lui propose un défi. Si elle est capable d'écrire un second article aussi bon que le premier, il l'embauche. Pas question de rater cette opportunité. Elisabeth décide d'écrire un article de fond sur les femmes divorcées et les différentes difficultés qu'elles rencontrent au quotidien. Elle propose même de réformer la loi les concernant. Belle plume, récits vivants, bonnes idées, Madden est conquis. Elisabeth Cochrane décroche son premier poste. Néanmoins, son nouveau rédacteur en chef lui conseille de prendre un nom de plume. Les historiens ne sont pas tous d'accord sur la création du nom de Nelly Bly. On ignore si c'est son idée ou celle de Madden, mais on sait que c'est un clin d'œil à une chanson populaire de Stephen Foster, surnommé « le père de la musique américaine », qui évoque une certaine Nelly. Et voilà comment Nelly Bly est née au Pittsburgh Dispatch. Nelly découvre l'atmosphère des salles de rédaction remplies d'hommes qui brassent des feuilles et des encriers en fumant leurs pipes ou des cigarettes. Elle refuse de se conformer à leurs attentes en écrivant de petits papiers sur des sujets futiles qu'on attend d'une consoeur. Elle se fait une spécialité de la condition féminine et du monde du travail ouvrier. Elle choisit pour son premier reportage une entreprise de conserverie où elle dénonce l'exploitation des ouvrières pour un salaire de misère. Ce numéro du Pittsburgh Dispatch est un succès. Les ventes s'envolent et Nelly continue sur sa lancée en dénonçant les faits de société qui lui paraissent injustes. Les chefs d'entreprise de Pittsburgh voient d'un très mauvais œil cette « gratte-papier » qui étale sur la place publique leurs pratiques peu reluisantes. Ils font pression sur Madden pour qu'il remette cette fille à sa place, à la rubrique culture. Mais à 20 ans, Nelly est encore plus indocile qu'à l'adolescence. Elle supplie Madden de lui laisser faire un reportage en immersion dans une entreprise de fil de fer où elle se ferait embaucher comme ouvrière. Le papier qu'elle tire de son expérience est un nouveau succès d'édition. Encore une fois, les patrons de la ville se plaignent auprès de Madden et Nelly est renvoyée à la rubrique culture. Loin de se laisser intimider, elle décide de faire de cette punition quelque chose de grandiose. Elle part au Mexique comme correspondante. Pour l'occasion, elle est accompagnée de sa mère. À l'époque, une jeune fille convenable de 20 ans ne voyage pas seule. Elle écrit une série d'articles sur les mœurs et la politique mexicaine qu'elle envoie à son journal. Ses idées libérales sur la politique et ses opinions sur la façon dont le pays devrait être gouverné ne sont pas du goût du général Porfirio Diaz, le président du pays. En 1886, Nelly Bly est expulsée du pays. Elle tire de son séjour un premier livre intitulé « 6 mois au Mexique ». L'année suivante, la journaliste déménage à New York. Elle veut désormais intégrer le plus prestigieux journal d'Amérique, le New York World, dirigé par Joseph Pulitzer. Évidemment, à New York, personne n'attend Nelly Bly. Elle reçoit une fin de non-recevoir lorsqu'elle se présente à l'accueil du journal de ses rêves. Mais pour Nelly, non n'est pas une réponse. Elle fait le pied de grue devant l'immeuble jusqu'à ce qu'on lui accorde un rendez-vous. Intrigué par sa ténacité, Pulitzer décide de la recevoir. Le 22 septembre 1887, Nelly déroule son CV. Et ça donne une idée à Pulitzer. Il veut lui confier une mission. Une immersion dans l'asile pour femmes de Blackwell's Island, un établissement public à la réputation sulfureuse. La journaliste est immédiatement séduite par ce nouveau défi. Pour travailler sous couverture, elle crée une nouvelle déclinaison de son identité, Nelly Brown. Nelly Brown est un rôle méticuleusement créé par Nelly Bly. Il s'agit d'une jeune fille à l'esprit triste et dérangé, sans famille. Dans l'espoir de se faire interner d'office par la police ou des médecins, Miss Brown loue une chambre dans une pension pour travailleuses située au 84 de la 2e avenue à New York. Une fois dans la pension, Nelly s'évertue à agir de manière inquiétante. Elle a un drôle de sourire figé sur le visage en permanence. La nuit, elle refuse de dormir, pleure bruyamment et tient des propos incohérents. elle répète qu'elle veut retrouver ses coffres. De quoi s'agit-il ? Personne ne le sait, pas même elle. Déconcertée par le comportement de sa pensionnaire, Madame Stannard, la gérante, finit par appeler la police. Nelly Brown est présentée en urgence à un juge dans la nuit. Elle continue à tenir son rôle dans l'espoir de se faire interner par décision de justice. Mais le juge la prend en pitié, cette pauvre fille lui rappelle sa petite sœur. Nelly rentre à la pension, toujours libre. Elle se remet à pleurer de plus belle, tout en continuant à tenir des propos invraisemblables. Cette fois, la gérante appelle une ambulance. Nelly est emmenée dans une camionnette chez un médecin qui décrète qu'elle a consommé de la belladone, une plante toxique. C'est évidemment faux, mais Nelly accepte de jouer la carte de la droguée. Le médecin ordonne son internement à l'asile d'office. Nelly est ravie. Le dimanche 25 septembre 1887, la journaliste sous couverture est enfin conduite à l'asile pour femmes situé sur l'actuelle île Roosevelt au milieu de l'East River. Il s'agit d'une grande bâtisse néoclassique grise avec une tour surmontée d'un dôme entre deux corps de logis au milieu d'arbres chétifs. Le bâtiment pourrait être majestueux s'il n'était pas en mauvais état. Nelly continue de jouer son rôle. Elle arrive à l'heure du repas. Elle découvre des femmes assises sur des bancs sans dossier, l'air hagard et brutalisée par des infirmières à l'air sadique. La journaliste se rend compte que les rations sont maigres. Une tranche de pain, des pruneaux et une eau à la couleur mal définie qu'on qualifie de thé. En furetant, elle s'aperçoit que les cuisines sont pleines d'une nourriture saine et suffisante qui n'arrive jamais dans les assiettes des aliénés. Elle s'efforce de mémoriser chaque détail, car son carnet de notes lui a été confisqué. Elle n'a pas conscience que sa descente aux enfers vient de commencer. Pour connaître la suite de ce récit en deux parties consacrées à Nelly Bly, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée.